Vous écoutez France Culture.
À 6h45 minutes à Paris, comme chaque jour, les enjeux internationaux avec Thierry Garcin. Bonjour Thierry.
Et bonjour Marc.
Et aujourd'hui, le monde arabe et notamment islamisme et programme économique. Votre invité, Reda Benkiran.
Absolument, qui est en ligne avec nous. Bonjour Reda Benkiran. Alors, vous êtes socio-anthropologue, vous êtes chercheur associé au centre Jacques Berck, je crois que c'est à Rabat, si mes souvenirs sont bons. Et vous, voilà, et vous êtes consultant international à Genève. Vous aviez publié il y a quelques temps, sans jeu de mots d'ailleurs, dans le quotidien Le Temps, un article intitulé « Les nouveaux islamistes dans l'économie mondiale ». Alors, on rappelle le contexte, évidemment, les victoires électorales des islamistes, souvent massives comme en Égypte, qui mettent ceci en porte-à-faux, en fait, parce qu'ils ne souhaitaient pas aller forcément aux affaires et qu'ils seront d'abord jugés, vous le dites d'ailleurs vous-même, par le peuple bientôt sur leurs résultats économiques, alors que leur action, généralement, est beaucoup plus rentable et efficace au sein de la société. On pense aux frères musulmans en Égypte. Ils souhaitent souvent gouverner en coalition. Alors la question est de savoir si, précisément s'ils ont des programmes clairement définis et en quoi est-ce qu'ils se distinguent ou non du capitalisme traditionnel. On peut peut-être commencer par l'évolution de l'islamisme, une question de terminologie, Reda Benkiran. C'est-à-dire, au fond, on parlait autrefois des islamistes ou jadis, des islamistes modérés ou radicaux. Et puis, il a fallu faire une distinction avec le radicalisme salafiste et puis encore une autre distinction plus poussée avec le djihadisme, etc. Est-ce que vous acceptez le fait donc qu'il faille à chaque fois, non pas modérer, mais préciser le degré d'islamisme, et notamment dans son rapport à l'État, dans son rapport au pouvoir, dans son rapport à la violence armée d'ailleurs aussi?
Oui, je crois que le terme d'islamisme ou d'islam politique, d'abord, n'a pas le même sens en Europe, aux États-Unis, et donc, par rapport au sens qu'il a dans le monde arabe. L'idée de l'islam politique ou de l'islamisme, c'est que on peut regrouper un certain nombre de mouvements qui se réclament ou s'inspirent de l'islam pour un projet plutôt sociopolitique. Évidemment, la connotation en Europe est assez négative, mais je vous rappelle qu'il y a des mots qui sont de faux amis ou qui ont de faux sens. Hein. Le mot libéral en Europe n'a pas le même sens que dans le monde anglo-saxon. Je pense qu'il en est de même. Et sous ce vocable d'islamisme, vous avez maintenant une grande variété de mouvements. Et donc, effectivement, on peut, s'il y a 20 ou 30 années, disons, l'aspect idéologique, radical, voire révolutionnaire était très important. Depuis une dizaine d'années, clairement, suite à l'expérience de démocratie avortée en Algérie, à la guerre civile qui s'en est suivie, à un certain nombre d'échecs de l'islam politique sur des scènes nationales, il y a clairement la volonté de s'insérer dans un jeu démocratique, selon des procédures légales, non violentes, etc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'islam politique, dans la majorité des cas, regroupe une mouvance qui veut accéder au pouvoir de manière par la voie des urnes.
D'ailleurs, la confusion, on la pratique souvent ici même, peut-être à son corps défendant, c'est-à-dire qu'on souvent dit islamique, QUE, au lieu d'islamiste, ISTE, et ainsi de suite, et réciproquement. Alors, pour l'économie, on va revenir à l'économie. Vous dites justement, dans vos travaux, l'impression prévaut que les démocrates musulmans, entre guillemets, en devenir, sont prêts à tous les accommodements avec l'économie de marché, etc. Alors, ce qui frappe, c'est quand même que la plupart de ces économies du monde arabe sont entières, sont peu industrialisées, peu productrices, que la population est jeune et d'autre part qu'il y a des classes moyennes et supérieures souvent importantes, c'est-à-dire au fond rien, je veux dire, ce n'est pas un schisme économique tel qu'on l'a connu pendant 40 ou 50 ans avec le communisme en Europe, dans l'Europe divisée, où là c'était radicalement différent.
Oui, bon, il est difficile de parler du monde arabe sur le plan économique à travers une unification, parce qu'il y a une variété de situations, mais vous avez clairement des pays qui sont producteurs de pétrole ou de gaz et qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la rente des énergies. Et vous avez des pays qui sont aussi qui ont des économies un peu plus diversifiées, mais comme la Tunisie, voire le Maroc, mais qui n'ont pas peut-être les niveaux socio-économiques des pays producteurs de pétrole. Mais dans le cas de ce qui s'est joué depuis un an, le printemps arabe, nous n'avons pas eu affaire à des émeutes populaires, des émeutes de la faim, des jacqueries issues de la crise. La crise économique a joué un rôle, notamment en Tunisie ou ailleurs, mais vous remarquerez que dans des pays comme la Libye ou le Bahreïn, où c'est pas seulement un État-providence, on a parlé d'État-nounou dans le cas du Bahreïn, vous avez des revenus très importants, des PIB très importants, mais où quand même il y a eu vraiment, les populations se sont soulevées pour réclamer un certain nombre de fondamentaux concernant la liberté, la volonté d'alternance de pouvoir, etc. Et donc, je dirais que dans cette phase actuelle, les islamistes n'ont pas une vision globale de l'économie, de la transformation de l'économie, notamment de ce rapport à la culture de la rente qui mine à long terme tout projet, global. Mais je pense que leur programme économique peut faire la différence pour peu qu'ils instaurent, s'ils accèdent au pouvoir, comme ils sont en train de le faire, un autre rapport à la chose politique, c'est-à-dire clairement lutter, une moralisation de la vie politique, clairement renoncer à avoir des activités prédatrices ou lutter contre la corruption. Je pense que dans le cadre limité des moyens qui pourront être les leurs, s'ils font preuve d'une certaine bonne gouvernance, déjà ils pourraient avoir, vis-à-vis de leur population, bénéficier d'un capital de sympathie renforcé.
Alors vous le dites aussi, vous dites par exemple, c'est intéressant, le salafisme, donc encore une variété particulière, le salafisme a été planétarisé grâce à des chaînes télévisées religieuses comparables aux chaînes évangéliques nord-américaines, où puritanisme et capitalisme s'accordent harmonieusement.
Oui, moi je lis l'émergence de l'islamisme clairement à l'importance qu'ont pris les pétromonarchies et de manière générale, l'importance de la ressource énergétique. Et donc on ne peut pas considérer, l'importance du facteur islamiste sans relier le rôle qu'ont pris des pays comme les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, depuis la crise, le choc pétrolier des années 70, qui a commencé dans les années 70. Donc des pays qui étaient sur le plan politique insignifiants au cours des années 50 ou 60, à l'époque de l'Égypte nassérienne ou de l'Algérie nouvellement indépendante, ont pris de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, vous avez le Qatar et l'Égypte qui sont des puissances non seulement économiques et financières, mais des puissances qui, ont une influence sur les différentes idéologies. Le Qatar est clairement, appuie tous les processus derrière la mouvance des frères musulmans. Donc
Et l'Arabie saoudite aussi, vous le dites d'ailleurs.
Et l'Arabie saoudite exporte son modèle théologique de wahhabisme et donc derrière le salafisme qui est à la base une sorte d'intégrisme ou de radicalisme purement religieux.
On peut dire aussi rigorisme peut-être.
Oui, tout à fait. C'est une vision rigoriste, mais qui ne se soucie pas ni du modèle économique, ni de renverser des dictatures. Ce n'est que récemment, à la faveur du printemps arabe, que ce mouvement, maintenant, cherche à s'organiser en parti politique et à accéder à des parlements. Et à mon avis, c'est cette frange relie pas nécessairement à l'islam politique, mais cette frange, le salafisme qui constitue sur le plan idéologique la chose la plus dérangeuse pour les sociétés de la rive sud de la Méditerranée.
Alors, Reda Benkiran, et merci d'être en direct avec nous. Donc, vous êtes chercheur associé au Centre Jacques Berck et également consultant international à Genève. On avait vu lors de ces soulèvements arabes avec la Tunisie au départ, il n'y avait pas de projet politique ou idéologique, il n'y avait pas de projet religieux ou islamistes, les racines étaient profondément sociales, sociétales, socio-économiques également. Et alors les transformations clés qu'on va connaître et qu'on devrait connaître dans tous ces pays sont des transformations qui sont autant sociales que politiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Autant sinon plus d'ailleurs, sociales que politiques.
Beaucoup hésitent à qualifier de révolutionnaire le mouvement qui s'est enclenché depuis un an et demi. Moi, de mon point de vue, c'est une révolution, mais elles sont éminemment sociales. Et c'est une révolution qui est à la base mentale, c'est-à-dire que ce qui s'est joué depuis un an et demi, c'est la volonté de faire sauter le verrou de la peur vis-à-vis du rapport aux dirigeants, vis-à-vis du rapport à l'autorité politique et aussi, je pense, à l'autorité religieuse. Donc ce qui se joue, c'est vraiment la mise à jour d'un certain nombre de revendications sur le plan social. Et de ce point de vue-là, la traduction politique n'est qu'un des aspects. Nous allons probablement avoir affaire à voir un certain nombre de débats fleurir autour de la liberté de l'individu, du rôle des minorités, le rôle des femmes. Le rôle des femmes sera un indice de mesure de la démocratie qui va se donner à voir dans les différents pays.
Place, rôle, droit de la femme, statut personnel, droit de la famille, c'est fondamental, vous pensez, pour les réformes à venir. On verra nouvelles constitutions.
Absolument, et je pense qu'il ne faut pas, de notre point de vue depuis l'Europe, il faut avoir un regard bienveillant et ne pas interférer sur les débats en cours, et ce qui se joue va déterminer, l'évolution pour plusieurs décennies. D'une certaine manière, un demi-siècle après l'ère des indépendances politiques, nous sommes en train de parvenir à la deuxième phase de la libération nationale, c'est-à-dire des questions qui normalement devaient se jouer au lendemain de l'indépendance de l'Algérie ou d'autres pays phares du tiers-monde. Ces questions vont se jouer pour les prochaines années, voire décennies, sur les transformations sociales. Donc la phase où l'islamisme accède au pouvoir est, à mon avis, évolutive et transitoire, et je pense que nous allons avoir des débats, que la présence de l'islam politique va être l'occasion de confrontations, de débats. Il ne faut pas exclure des tensions, voire des conflits, mais sur le long terme, je pense que c'est la stabilisation de toute la rive sud de la Méditerranée qui va se jouer.
Un grand merci de cette mise en perspective, notamment historique et pour l'histoire à venir. Au fond, c'est un peu la relation à la modernité, puisqu'on peut appeler souvent la sécularisation de l'islam. On reviendra sur tout cela avec vous certainement et avec d'autres experts prochainement. Reda Benkiran, donc consultant international à Genève, franceculture.fr pour écouter l'émission, l'écouter donc durant 30 jours, la télécharger et le jour même. Et Marc, encore une fois, mon dernier mot, c'est comme d'habitude, franceculture.fr.
Voilà, le mien sera comme d'habitude. À demain, Thierry Garcin.